les jardinières. Les jardinières qui se conjuguent au masculin en ce dernier week-end du mois de mars, qui marque aussi le passage à l'horaire d'été. On est parti pour une heure de jardin avec Mike qui m'accompagne ce matin. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Et notre professionnel qui sera à nos côtés pour répondre à toutes vos questions, c'est Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queuve et propriétaire de Ribaud Paysages. Et en votre compagnie durant ces prochaines minutes, vous allez, entre autres, nous parler des petits fruitiers.
Et bon réveil à notre écoute. Merci d'être au rendez-vous des jardinières pour débuter votre week-end. Bienvenue, bon réveil.
7h, 8h, les jardinières.
Dans quelques minutes, notre thématique du jour nous emmènera à savourer des framboises, des cassis ou encore des groseilles directement sur pied, puisque nous aborderons les petits fruitiers. Mais ouvrons tout d'abord cette émission avec ce passage à l'heure d'été, Jean-Pierre. Faut-il surveiller notre potager de façon différente au changement d'heure ?
Non, alors il n'y a pas une attitude particulière par rapport au changement d'horaire pour ce week-end. Mais à l'évidence, avec la météo qu'on a vécue hier, aujourd'hui bien sûr, il est un peu plus désagréable de travailler dans le potager. Mais les semaines qui arrivent seront grebues d'une quantité de travaux qu'on pourra réaliser dans ces potagers. À l'évidence, toutes les préparations de sol, bêchage, affinement des terres, ça devrait déjà être fait. Mais si ce n'est pas le fait, c'est le grand moment. Et puis, gentiment se préparer aux premières plantations de plantons avec une petite protection printanière pour les froids tardifs. Mais effectivement, l'activité va commencer de se multiplier dans le potager.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h également pour répondre aux questions de nos auditeurs. Vous pouvez d'ailleurs le faire par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et ainsi poser votre question en direct à notre professionnel mais aussi par SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question complète à envoyer au 939 ou encore dernière possibilité par le formulaire de contact disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions jardinières avec la possibilité de joindre une photo.
Et ça aidera bien sûr notre professionnel pour vous aider à y répondre. Dans quelques minutes, nous parlerons des petits fruitiers. Comment planter ces petits arbustes ou encore comment les entretenir ou comment les tailler. Début de réponse dans un instant.
7h, 8h, les jardinières.
Déguster des petits fruits bien mûrs directement depuis son jardin, c'est possible. Et ce matin, nous allons parler des petits fruitiers avec notre invité Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Jean-Pierre, quand on parle de petits fruits, on pense directement aux framboises ou aux raisinets. Mais rassurez-nous, il existe bien d'autres petits fruitiers à planter chez nous.
Ah oui, bien sûr, il y a une panoplie incroyable de petits fruits qu'on peut implanter chez soi avec une récolte super intéressante et puis des soins qui sont pas très compliqués à vouer à ces plantations. Alors bien sûr, on parle framboise, mais on peut aussi parler raisinets, groseilles, cassis, macro, la myrtille bien sûr, le mûrier, il y a la mélanchier, c'est un petit fruit rouge aussi qui est succulent. Oui, bien sûr, il y a une quantité de produits qu'on peut implanter.
Et avant de filer, acheter un arbuste, de quoi a-t-on besoin dans le jardin ? On a besoin de place, de pleine terre, de pot ?
Alors on cherchera un endroit dans le potager où il y a vraiment de la terre en épaisseur, donc un sol profond qui permettra l'épanouissement de ces petits fruits. C'est souvent des plantes d'ailleurs qui d'origine viennent des sous-bois où le sol est frais, humide, pas super exposé au soleil mais quand même. Et puis par contre il y a des plantes qui devront subir des soins particuliers comme la myrtille, parce que la myrtille bien sûr alors elle vient de l'altitude et puis elle est souvent dans des sols très acides. Et puis si un jour vous décidiez de planter un plant de myrtille chez vous dans le sol calcaire que l'on a, il y aurait un phénomène de brûlure des racines par le calcaire, parce que c'est une plante qui ne supporte pas du tout le calcaire, au même titre que l'hortensia ou le rhododendron. Donc là, on fera une poche de tourbe avec une protection plastique ou dans un grand pot qui sera implanté dans le terrain. Et puis on mettra vraiment une terre de bruyère, une terre acide pour qu'il puisse s'épanouir.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors ces petits arbustes, on le sait, se trouvent facilement en jardinerie. Alors quand on va acheter un fruitier, à quoi faut-il faire attention quand on choisit la plante dans le magasin ?
Oui, alors bien sûr, comme le printemps des fois est très chaud déjà, et puis les étalages gorgés de plantes, on se rend compte certaines fois que certaines plantes ont subi un peu le dégât du sec dans la journée. Alors en achetant une plante, on va prendre des plantes qui sont très fraîches, qui sont hyper épanouies au niveau du feuillage. des plantes qui ont déjà de la vitalité dans les pots, parce qu'on voit aussi certaines fois des plantes qui sont chétives, médiocres ou cassées, alors on les laissera volontiers sur l'étalage. Et puis pour ce qui est des arbustes, des résinets, des groseilles, là pareil, on cherchera des plants qui auront des développements de pousses de l'année antérieure intéressants, et puis pas des pousses nanifiées, et puis qui auront souffert déjà d'une année de plantes en pot.
Merci Jean-Pierre. Alors maintenant que j'ai tous les conseils pour choisir la bonne plante au magasin, je l'ai achetée avec moi, qu'est-ce que je dois faire? Directement la planter? Est-ce que je dois faire quelque chose de spécial avec les racines, les tailler? Comment je dois m'y prendre?
Alors non, parce qu'en général, c'est toujours des plantes qui sont en pot ou en motte. On n'a plus à cette période de plantes à racines nues. Les derniers qu'on plante, ce serait que du fruitier, puis on n'est pas dans ce type de plantation-là. Ce qui peut des fois arriver, c'est que quand vous avez une plante en pot, un cassis par exemple, et puis qu'il a eu un super développement et puis une grande énergie l'année précédente, dans le pot, on se rend compte que les racines, elles sont toutes amassées en bordure de plastique. Et puis quand on le sort du pot, eh bien, pour permettre à ces racines de s'épanouir différemment dans le terrain, eh bien, on coupera le premier centimètre de ces racines sur le tour, on donne un coup de couteau. Et puis le fait d'avoir sectionné ces racines, eh bien sûr, elles vont redémarrer. Et puis une fois qu'elles seront dans le terrain naturel, les racines vont partir en tous sens et plus continuer de pousser en tournant. Sur des sujets comme ça, ça ne peut pas poser trop de problèmes. Ça pourrait être plus problématique sur des arbustes ou des arbres en pot avec des racines tournantes de ce genre, parce que dans le temps, si on n'intervient pas avec ce couteau sur la hauteur des racines pour les sectionner, eh bien, les racines vont continuer de pousser en tournant dans ce sens-là, et puis ça va manquer de stabilité, et puis un jour, l'arbuste pourrait tomber. Dans les petits fruits, on n'a pas ces phénomènes-là.
Vous le savez, Jean-Pierre, je suis une personne assez gourmande. Alors, si on achète des petits arbustes maintenant et qu'on les plante directement en terre, est-ce qu'ils donneront déjà des fruits cet été?
Alors oui, bien sûr, les framboisiers vont s'épanouir, pousser, vous aurez déjà des récoltes cet été ou cet automne, ça dépend de la variété que vous aurez pris. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les variétés qui sont remontantes, ça veut dire qu'elles donnent deux variétés sur la saison, elles sont super intéressantes. Dans les groseilles, résinées, cassis, pareil, bien sûr, ce sera plus compliqué sur le mûrier, parce qu'on sait que le mûrier, il produit ses fruits sur le bois de 2 ans, et puis bien sûr, en achetant un plant ce printemps, eh bien, les rameaux de l'année passée ont été sectionnés pour un transport plus facile et une vente plus facile. Et puis le mûrier, vous n'aurez pas une récolte cette année. Par contre, bien sûr, l'année qui va suivre cette plantation, enfin l'année 2022, bien sûr, eh bien là, vous aurez une mise à fruit facile.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de l'entretien de ces petits fruitiers.
7h, 8h, les jardinières.
Et ce matin, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, nous parlons de petits arbres fruitiers. Les framboisiers, mais également les groseilliers, peuvent très bien pousser dans des pots. Alors Jean-Pierre, est-ce qu'une plante en pot a les mêmes besoins qu'une plante en pleine terre?
Non, alors une plante en pot a bien sûr beaucoup plus d'exigences sur l'année au niveau de sa culture. Ça veut dire un apport régulier d'humidité, parce que ces pots, c'est toujours le drame. Ils sont souvent exposés plein soleil, donc le pot chauffe, il assèche le terreau, et puis la plante, elle est très vite en souffrance, en déficience hydrique. Et puis, bien sûr, on sait que le pot est aussi une surface qui est plutôt restreinte au niveau du substrat terreux. Et puis, il faut absolument lui apporter de l'engrais. Alors évidemment, on amène de l'engrais qui est plutôt rapide dans l'assimilation au niveau de la racine. On aime bien travailler avec de l'engrais liquide. Il y a des produits qu'on trouve relativement facilement dans les grandes surfaces. Si vous faites une plantation ce printemps dans un nouveau pot avec une nouvelle plante et de nouveaux terreaux, à ce moment-là, vous pouvez aussi acheter de l'engrais qui s'appelle, en fait, je ne vais pas donner le nom, mais qui est sur le long terme et puis qui développe ses éléments nutritifs sur 3, 6 ou 9 mois. Alors si on les plante maintenant, on peut prendre un engrais de longue durée, 9 mois. Vous les trouvez également tout ça dans le commerce en demandant à un spécialiste. Et puis l'avantage de ces engrais, eh bien, vous n'aurez pas cette déficience si vite que ça dans votre substrat. Si c'est des vieilles plantations qui sont toujours dans ces pots, eh bien là, il faudra intervenir plus régulièrement avec de l'engrais liquide et puis l'arrosage à l'évidence, bien sûr.
Et puis justement, parlons-en de cet arrosage. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? C'est plutôt 2 fois par jour, 1 fois par jour, enfin le soir, c'est quoi le mieux?
Alors ça dépend un peu de l'emplacement du pot, ça dépend de la grandeur du pot et puis si vous avez une sous-tasse. Alors bien sûr, de préférence, le soir c'est bonheur parce que toute la nuit la plante a le potentiel pour se régénérer et puis emmagasiner cette humidité. Si c'est vraiment en plein été et puis qu'il fait un 40 degrés sur terrasse, eh bien peut-être une fois le matin, une fois le soir, parce que bien sûr l'évaporation par la feuille de cette humidité durant la journée va être terrible et puis la plante elle sera quand même en déficience. Et puis si c'est une plante qui est en souffrance, automatiquement vous allez le ressentir directement sur la mise à fruits. Soit vous aurez des fruits qui sont petits, soit ils vont pas tenir sur la plante et puis ils vont avorter. L'humidité est une importance capitale sur des plantes en pot. À l'évidence, c'est vrai que si celui qui a un petit potager et puis des plantes en pot, il peut les mettre dans le potager, le sol naturel régule tellement facilement ses humidités et ses engrais qu'il est beaucoup plus facile de les mettre en pleine terre. Mais après, à l'évidence, bien sûr, celui qui n'a pas ce carré de potager, qui veut quand même son carré sur un jardin suspendu ou en pot, eh bien, il y arrive, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de soins dans l'arrosage et l'engrais. C'est les deux soins très, très particuliers tout l'été à apporter.
Et puis en hiver, est-ce qu'il faut un peu plus les protéger ?
Non, parce que c'est des plantes qui supportent très très bien nos latitudes, ils supportent également le froid, même au niveau des racines. Ça veut dire que même si le pot gèle et puis que la motte de la plante devait geler, l'arbuste en question, il va supporter sans problème cette condition-là.
Même alors s'ils sont petits, ces arbres fruitiers ont quand même besoin d'être taillés. Ça va être la grande question. Alors comment procéder, Jean-Pierre ? Est-ce que la taille est déjà pareille pour tous les petits fruités ? Ou est-ce que déjà la taille est obligatoire ?
Alors non, à l'évidence, chaque type de petit fruit a sa taille particulière. Si on prend un résinier, un groseillier, on sait que la mise à fruits se produit sur les branches de 3-4 ans. C'est là que vous avez les plus beaux fruits, les plus gros fruits. Donc on intervient avec un sécateur et puis on dédouble le pied mère. On fait des coupes à la base. Il ne faut jamais faire une taille en hauteur sur les petits fruits. Parce que si vous taillez, admettons, à 1 mètre une branche, la réaction de la plante va faire qu'elle va redémarrer à cette hauteur-là avec une pousse de 50-80 cm. Et puis vous, c'est de l'objectif de diminuer la hauteur, donc l'objectif ne sera pas réussi. Donc on intervient toujours à la base, au sécateur, en général il n'y a pas besoin de scie parce que c'est des éléments qui sont plutôt petits au niveau des tailles. Si on prend le myrtillier, eh bien c'est aussi un petit dédoublement d'éléments fruitiers, mais les éléments chétifs qui se trouvent sur le plant, ceux-là on peut aussi les supprimer. Ce qui est des framboisiers, là vous avez deux types, les remontants, c'est des variétés qu'on arrive à complètement tout couper durant l'automne et puis au printemps ils vont redémarrer, vous aurez la première mise à fruits dans la première période du mois de juillet et puis la deuxième grosse période dans la période du mois de septembre. Et puis si c'est pas des remontants, eh bien là il faut absolument sélectionner les belles baguettes de l'année passée en faisant cette taille d'entretien maintenant. On supprime tout ce qui aura déjà porté ses fruits et puis les petits éléments, les non remontants produisent de nouveau les fruits sur le bois de 2 ans. Et puis après, si on parle encore mûrier, eh bien c'est pareil, tout ce qui a produit de fruits l'année passée, alors on le voit facilement, c'est des éléments qui sont déjà séchards avec des feuilles restantes dessus, puis des ombelles fruitières qui restent, ça on peut tout supprimer. On va préconiser la sauvegarde des belles baguettes de l'année passée. Il y a aussi des fois sur ces longues baguettes, des retours de pousse entre chaque feuille au démarrage. Eh bien celles-là, on peut se permettre de les couper à 3 yeux, parce qu'on sait que le mûrier, eh bien il va porter sur le bois de 2 ans. Mais sur ce bois de 2 ans, cette année, il doit quand même encore développer des petites ramilles. Puis plus il en développera, et bien plus vous aurez des fruits.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On attend avec impatience l'été pour enfin pouvoir déguster tous ces petits fruits.
Les jardinières.
Tous les samedis, entre 7h et 8h, nous parlons jardinage avec les conseils d'un professionnel. Ce matin, celui qui répond à vos questions, c'est Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysage à Queuve. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut la poser, mon cher Mike.
Et oui, effectivement, cette question, on peut la poser via notre formulaire de contact sur notre site internet, onglet « Questions aux jardinières », également par SMS au 939 en tapant « Jardin », un espace et votre votre question ou encore en direct par téléphone au 0901 70 20 20. Et d'ailleurs, Raphaël, on a reçu une question.
Oui, mais juste avant ça, mon cher Mike, je voulais quand même revenir avec Jean-Pierre sur nos fruitiers, puisque c'était la thématique de notre début d'émission. Et je me demandais, Jean-Pierre, si on sort un petit peu des classiques, framboises, résinées et autres cassis, est-ce que vous avez un petit conseil pour nos jardiniers amateurs pour avoir un fruitier un petit peu hors du commun ?
Alors, il y a dans le particulier qui peut quand même être dans les plants indigènes, on a la Mélanchier canadensis. C'est un arbuste qu'on rencontre assez régulièrement, même dans les aménagements paysagers. C'est un arbuste qui arrive à 1,50 m, 1,80 m de haut, qui a une super jolie floraison printanière blanche. Il sera en fleur d'ici 3 semaines, 1 mois. Et puis, il a des grappes d'amélanche, ça s'appelle comme ça, le fruit. C'est un peu l'identique à la myrtille, c'est beaucoup plus doux, de couleur d'abord rouge, après elle vient violacée. Puis quand elle est violacée, c'est un fruit qui est super bon avec une salade de fruits, une chantilly et puis de la meringue. Et puis sinon, dans l'un peu plus hors cadre, qui n'est pas très indigène, mais qui est très bon, c'est l'aronia. C'est une plante aussi avec un fruit noir, qui se développe à peu près de la même grandeur que la mélanchier, qui fleurit blanc également au printemps. C'est deux particularités, donc la mélanchier et l'aronia, c'est deux arbustes qui sont pas très courants dans les jardins des petits fruits, puis qu'on peut quand même implanter, ou même dans les arbustes décoratifs, dans les haies vives, et puis qu'on se régale en passant à côté pour faire une petite cueillette, quoi.
Mais on les trouve, ces arbustes-là, dans nos régions, et c'est des arbustes qui s'adaptent à notre région, Jean-Pierre ?
Alors oui, bien sûr, aucun souci au niveau d'adaptation, ils supportent très bien notre climat, nos latitudes. Tout professionnel connaît ces deux arbustes, parce que la mélanchier est quand même assez standard, mais pas forcément très bien conseillée pour ses qualités de mise à fruits. Et puis l'aronia, il est un peu plus récent, je dirais que ça fait moi une petite quinzaine d'années seulement que je le connais, donc au bout de 30 ans d'expérience, c'est une plante qui est arrivée par chez nous. Oui, c'est assez récent, mais on le rencontre quand même assez couramment. Si vous le demandez chez un professionnel, il va vous les produire sans souci.
Et au passage, le jus d'aronia est très bon. J'ai eu l'occasion de goûter, Jean-Pierre. Alors,
eh bien, voilà.
On a reçu une question la semaine passée en fin d'émission de Nelly qui nous dit que sa plante perd ses feuilles. Elle a des cochenilles, même après nettoyage des feuilles, traitement, changement de pot, d'engrais, etc. Aucune amélioration. Alors, elle recherche votre aide. Elle demande comment elle pourrait faire pour améliorer avec cette belle plante. Elle a même joint une très belle photo, Jean-Pierre.
Oui, bonjour Nelly. Effectivement, la photo, elle est splendide. La plante est d'une grande envergure. Il est vrai que l'emplacement où elle est donnée par rapport aux autres plantes qu'on se rencontre sur photo qui sont voisines peut faire office de bac de rétention de nouvelles souches une fois que vous avez traité la grande en question. Alors il faudrait faire une lutte générale de l'ensemble des plantes que vous avez dans votre espace, parce qu'il y en a, j'en vois 3, j'en vois 4. Et puis la cochenille, c'est une plante, la lutte elle est avec un produit, une huile qui fait qu'une fois aspergée sur le parasite, cette huile sèche et puis elle détruit le parasite par étouffement. Mais les œufs ne sont pas pris malheureusement par cette huile, et puis il faut intervenir 2 ou 3 fois avec une huile minérale, donc hein, c'est un produit biologique, pour justement prendre la première, la deuxième, la troisième génération, jusqu'au moment donné où il n'y aura plus de ponte sur l'ensemble des plantes que vous avez dans votre potager. Parce que vous laissez une plante dans un coin et puis évidemment cette cochenille se balade et puis revient coloniser les plantes sur lesquelles elle s'épanouit pleinement. Et puis certainement que la grande que vous avez là, eh bien, c'est une plante qui est haute par rapport à la cochenille, qui est appréciée de la cochenille.
C'est vrai que la plante, hein, pour nos auditeurs qui n'ont pas la photo, fait facilement le premier étage et le deuxième étage et va se balader sur le plafond. Sacrée belle plante en tout cas pour Nelly. Et si, comme Nelly, vous avez des questions à poser à Jean-Pierre, eh ben, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Le standard est ouvert, 0900 70 20 20. Vous pouvez également nous contacter par SMS. On vous rappelle comment ça marche. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet.
7h, 8h, Les jardinières.
Les jardinières sont dans leur dernier quart d'heure en ce samedi matin en compagnie de notre professionnel. C'est Jean-Pierre Ripon qui répond à toutes vos questions ce matin et vous êtes nombreux à nous écrire par SMS ou par le formulaire. Et on va prendre, je vous propose Jean-Pierre, cette question d'Isabelle de Rochefort qui nous a écrit avec une jolie photo. Donc encore une fois, on a une jolie plante avec une photo. Et cette plante mise en pot avec du terreau, j'ai l'impression que quelque chose mange les feuilles à haut niveau où elle sort de la terre. Est-ce que vous avez une solution pour Isabelle, Jean-Pierre?
Oui, bonjour Isabelle. Oui, la photo que j'ai sous les yeux donne cette impression que le bas des feuilles peut être un peu grignoté. Ce qu'il faudrait pour intervenir sur une plante de ce genre, c'est un insecticide qui soit systémique. Ça veut dire, ben vous trouvez facilement tout ça dans le commerce. Vous demandez simplement que l'insecticide soit absorbé par la plante, il pénètre dans la sève du végétal. Et puis, étant véhiculé par la sève du végétal, eh bien, le petit coquin parasite qui vient vous grignoter ses feuilles à la base sera intoxiqué puis va disparaître. C'est le meilleur des produits que vous puissiez utiliser pour combattre cette attaque-là.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On continue avec une question reçue ce matin par SMS. La question est la suivante. Est-ce que l'eau de pluie est plus ou moins calcaire ?
Alors non, évidemment que non. L'eau de pluie n'est pas du tout calcaire. Alors elle est même intéressante.
Déjà, c'est dans le sol.
Pardon ?
On en a déjà assez dans notre sol du calcaire, ça suffit.
À l'évidence, les eaux de nos réseaux sont bien sûr gorgées de calcaire, elles sont très dures en pH, on le sait, parce que chez nous, on est un sol calcaire, on serait dans les grisons, eh bien, on n'aurait pas ce phénomène, l'eau serait plutôt acide parce que le sol n'est pas du tout de la même intensité du pH. Donc l'eau de pluie, non, elle n'est pas du tout calcaire, elle est neutre, totalement neutre, elle est super intéressante pour les arrosages parce qu'elle ne va jamais développer des taches d'époque calcaire et autres, et puis elle ne neutralisera jamais les acides des sols tels que ce qu'on aurait par exemple dans la myrtille, les redots ou les azalées.
Du coup Jean-Pierre, est-ce qu'il serait intéressant de stocker cette eau de pluie pour arroser après les plantes ?
Alors oui, bien sûr, parce qu'elle est neutre, c'est de super qualité par rapport à l'arrosage. Souvent en plus, quand on la stocke, eh bien, on arrive à l'avoir à une température un peu plus élevée que ce qu'on a dans les réseaux d'eau. Donc elle est tout bonus pour ça, bien sûr.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour tous vos bons conseils. On enchaîne avec cette nouvelle question que l'on a reçue ce matin. Bonjour, la fleur d'arnica pousse-t-elle au Jura ? C'est une bonne question.
C'est une mauvaise question parce que le jardinier en question ne connaît pas l'arnica. Alors je suis un peu plus embêté pour répondre à la question.
Alors écoutez, ce que je propose à notre auditeur qui nous a envoyé ce SMS, c'est qu'on va la mettre de côté, on va la garder. Et puis comme on a la chance dans les jardinières de changer de jardinier toutes les semaines et d'avoir chaque semaine un nouveau professionnel, on tentera de la poser à notre jardinier la semaine prochaine.
Je suis désolé.
Mais écoutez, il n'y a pas de problème Jean-Pierre. Mike, peut-être une question à suivre ou vous préférez repartir un petit coup en musique ?
Alors on a une rapide question, quelqu'un qui a de la sauge, est-ce que la plante est assez grande mais les branches s'étirent un peu dans tous les sens. Et la question c'est, est-ce que nous pouvons la tailler maintenant ? Si oui, comment procéder pour de la sauge ?
Oui, alors la sauge, elle est au même titre que la lavande, des plantes qu'il faudrait tailler. Alors, si elle n'a pas été taillée jusque-là, ça vaut la peine de le faire, bien sûr. Mais on ne peut pas se permettre de revenir trop méchamment au niveau de la taille sur ces plantes parce que le potentiel de redémarrage sur les pousses antérieures aux années sont très très difficiles. Et puis si vous faites une taille trop méchante, ça pourrait même amener au péril de la plante. Alors on essaie toujours de rester dans la zone quand même verte. On essaie, en théorie, la taille ce serait d'enlever 2/3 de la pousse de chaque année. Donc il ne faut pas attendre que la sauge fasse 30-40 cm et puis ce soit ouverte et puis soit totalement dégarnie et puis qu'il n'y ait plus que les extrémités verte, parce que là on a de la peine à la récupérer. C'est comme la lavande, c'est le même truc. Il faut chaque année, une fois la floraison passée, on intervient avec un ciseau, un sécateur, un taillé électrique, c'est égal. On enlève en tout cas 2/3 de la pousse pour entretenir cette plante dans le temps, parce que sinon ça vieillit très mal.
7h, 8h, les jardinières.
Et de retour dans les jardinières avec des questions qui arrivent par SMS, notamment Lionel de Port-Alban, Jean-Pierre, qui nous pose une question. Comment arroser correctement une orchidée ?
Alors les orchidées, c'est des plantes qu'on arrose, je dirais, 2-3 fois par semaine, à petite dose, on ne les noie pas. Hein. Ce ne sont pas des plantes qui sont de milieux humides au niveau des sols. Et puis, ça s'entretient, je dirais, sur 7-8 mois comme ça, tout pendant que les fleurs s'épanouissent. Et puis, du moment que les fleurs ont disparu, se sont asséchées, le mieux, c'est de prendre cette orchidée et puis de l'oublier un peu. 3 semaines, 1 mois, vous la laissez dans un coin, rarement de l'eau. Et puis, au bout de ce laps de temps, eh bien, vous la récupérez, vous la bassinez dans de l'eau pour réveiller un peu tout l'organe végétal. Et puis, vous la remettez à une exposition acceptable au niveau de la lumière. Et puis là, vous allez voir qu'elle va repartir à fleur. C'est la meilleure des manières pour provoquer la mise à fleur de l'orchidée.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Comme ça, Lionel aura des belles orchidées pour cette belle saison qui approche, hein, puisque voilà, on y est, hein, l'heure d'été, on y passe durant la nuit prochaine. Et c'est avec cette belle phrase totalement inutile qu'on va gentiment arriver à la fin de ces jardinières, puisque le temps passe vite et il est déjà presque l'heure de se quitter. En tout début d'émission, nous avons parlé des petits fruitiers avec vous, Jean-Pierre. Et si vous avez raté un bout ou que le sujet vous intéresse, je vous propose de retrouver l'émission en podcast sur la page des jardinières, ce sera dans les minutes à venir. Mais avant de se quitter, Jean-Pierre, et avant de, surtout de vous laisser filer à vos occupations, que doit faire le jardinier ces prochains jours, surtout avec l'heure qui va changer ?
Oui, alors c'est surtout avec la météo qui va changer qu'on doit intervenir aussi rapidement sur certaines choses dans les potagers, dans les aménagements. Il y a les dernières tailles dans les rosiers, il y a bien sûr tous ces entretiens de petits fruits qu'on a cités. On peut encore mettre les mulches ou les paillis pour éviter les mauvaises herbes durant la saison. Hein. C'est maintenant qu'il faut les mettre pour supprimer toutes les mauvaises herbes de cet été. Alors après, du compost, du copeau, de la paille, c'est égal. Attention de ne pas mettre de copeaux de bois sur des framboisiers parce que c'est toxique et puis la plate-bande serait fichue, mais le framboisier va supporter très bien la paille. Et puis, comme on a dit, la préparation des sols, des carreaux au niveau du potager. On peut gentiment se mettre à planter les premiers plantons avec bien sûr une protection printanière, plastique ou couverture pour les gelées matinales qu'on a encore. Et puis pour le reste, tout va démarrer vite.
Jean-Pierre, merci. On en profite pour rappeler que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Un grand merci d'avoir été en notre compagnie et d'avoir répondu avec vos précieux conseils aux questions de nos auditeurs et nos auditrices ce matin. On vous dit à très vite chez Les Jardinières.
Merci à vous, puis bon week-end à tout le monde.
Merci Jean-Pierre. Les Jardinières qui seront de retour évidemment samedi prochain, même heure, même endroit. Ce sera à partir de 7h et la semaine prochaine, nous serons en compagnie de Tom le jardinier. Et si vous avez une question, ben vous n'hésitez pas, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions en tout temps par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Merci beaucoup Mike d'avoir pris la place, pas facile à relever, de Mylène ce matin. On vous souhaite un bon week-end à vous, Mike.
Merci beaucoup, Raphaël. Effectivement, c'est pas facile de parler jardin, mais en tout cas, j'en apprends tous les samedis grâce à vous.
Passez une belle semaine, prenez soin de vous et on vous dit à samedi prochain.
7h, 8h, Les Jardinières.